Donc ce soir, je voudrais parler des émotions. Ça fait partie du troisième fondement de l'attention. Maintenant, quand on aborde les émotions, évidemment, dans la méditation, alors on peut se demander où est la limite entre la psychothérapie, entre la spiritualité, on pourrait même dire, et la philosophie. Mais évidemment, ce sont des catégories un peu bizarres parce que la vie, elle ne fait pas de différence. Et on ne dit pas, tiens, je vais être une heure spirituelle, une heure psychologique, et une heure philosophique, et une heure efficace. Ces divisions que l'on fait, que l'on a fait dans l'histoire de la culture pour amener une certaine précision, pour amener peut-être plus de clarté, si elles ont leur utilité. De croire finalement qu'on pourrait fragmenter la vie comme ceci, avec ce qui serait de l'ordre psychologique, de l'ordre spirituel et philosophique, est quand même quelque chose d'abstrait. Ce qu'on rencontre dans sa propre vie, c'est que finalement, ces questions-là, elles vont se combiner, et qu'on ne peut pas séparer ceci. On ne pourrait pas imaginer que lorsqu'on demande à des personnes de s'asseoir en silence, les yeux fermés, on est dans une retraite spirituelle, seulement des questions spirituelles vont surgir. Ce qui va surgir, c'est les problèmes de la vie. Il serait erroné d'abord de les nier ou de dire, mais on ne s'occupe pas de ça. Vous voyez, voilà, j'ai de la tristesse, des angoisses, on ne s'occupe pas de ça. Et nous, on est dans le spirituel, vous imaginez. On s'occupe de la vie telle qu'elle se manifeste à chaque instant dans la pratique. Et la difficulté de parler des émotions, c'est pas tellement que c'est un thème difficile, c'est qu'au contraire, c'est quelque chose de tellement proche de nous que on manque de recul et que si on veut prendre un recul, alors on perd justement l'émotion puisque c'est ce dont on ne peut pas prendre distance, puisque c'est un aspect de la conscience. Et dès qu'on veut la mettre à distance pour l'observer, on parle déjà d'autre chose. On a créé une situation artificielle. Et c'est ça la difficulté, c'est que c'est tellement proche de nous que dès qu'on veut, on veut mettre des mots qui, évidemment, sont très utiles pour mettre des catégories, pour différencier, pour séparer, distancier, tout d'un coup, ces mots-là, ils deviennent, dans la description de l'émotion, quelque chose qui maintient une sorte de séparation, de distance artificielle et qui voile ce que ces mots sont supposés révéler. Donc quelquefois, il faut utiliser d'une sorte de langage un peu qui bafoue complètement les règles de la grammaire. Remarquez, la grammaire, on s'en fiche un petit peu, mais enfin, il faut quand même que ça reste quelque chose qui puisse être compréhensible. Donc la difficulté, en tout cas d'en parler, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement proche, extrêmement intime. Il serait erroné de croire que les émotions qui surgissent dans la méditation sont une sorte de défaut. Mince, alors tout d'un coup, je suis tombé sur des émotions, de la tristesse, de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'impatience. Et ceci est un empêchement à ma méditation. Si ceci n'était pas là, alors je pourrais méditer. Ah, ça serait génial. Il n'y aurait pas de tristesse, pas d'impatience, pas d'inquiétude. Là, je pourrais méditer. Vous voyez, cette notion qu'on pourrait avoir, et celle-ci, elle répond à quelque chose de particulier. Quand on croit que dans la méditation, il s'agit de se calmer, alors c'est des empêchements. C'est des empêchements à un type particulier de méditation. Si le seul enjeu de la méditation, c'est le calme, alors l'émotion est un empêchement au calme. Alors c'est un obstacle. Mais l'enjeu ici est bien plus vaste, bien plus profond que simplement une histoire de calme. C'est pour ceci que lorsque les émotions surgissent, loin d'être un obstacle, une difficulté, c'est une opportunité d'approfondissement. C'est une opportunité de plus grande liberté. On a l'impression que les émotions dans la vie quotidienne, c'est d'une manière générale quelque chose qu'on ne sait pas bien gérer. Toujours un peu un fardeau. On essaie de faire au mieux, mais c'est comme si c'était quelque chose, d'une certaine manière, qu'on ne connaissait pas très bien. Je parle dans les généralités, il y a des gens qui sont beaucoup plus habiles que d'autres, mais d'une manière générale, on a quand même l'impression que l'émotion est quelque chose qui est un peu encombrante. À tel point que dans, j'allais dire, certaines cultures, mais peut-être dans certains types d'éducation qui tendent un peu à disparaître, il était très mal vu de montrer ses émotions. C'est quelque chose qui semblerait montrer qu'on est débordé par quelque chose, qu'on n'est plus maître à bord. Donc il s'agissait de cacher les émotions. Connaît encore ceci. Dans certains contextes, de ne pas montrer ni de la tristesse, ni de l'inquiétude, ni de la peur. Alors donc c'est quelque chose d'extrêmement fascinant à explorer. Et si on revient à la mythologie bouddhique, on peut voir que le Bouddha, avant d'atteindre l'éveil, on dit qu'il est allé sous l'arbre de l'éveil. Et ce qu'il a rencontré, c'est les armées de Mara. Les armées de Mara sont venues l'attaquer. Et ces armées de Mara, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont l'orgueil, elles sont le doute, elles sont le désir. On voit bien qu'est-ce que sont. Ce sont des émotions. Et c'est parce qu'il les rencontre qu'il peut atteindre l'éveil. Non pas parce qu'il les a évitées. C'est cette rencontre-là qui lui permet de s'éveiller. Dans toutes les traditions spirituelles, on a cette rencontre avec les difficultés ou avec l'ombre, quels que soient les termes qu'on veut utiliser. On pourrait penser à la nuit obscure de Saint Jean de la Croix. On aurait beaucoup d'autres exemples qui, parce qu'on rencontre ce qui, dans le fond, ce qui nous perturbe, ce qui nous trouble, c'est parce qu'on rencontre ce qui nous trouble qu'on va pouvoir amener de la clarté dans ceci. Jung disait, l'illumination, ce n'est pas d'aller vers la lumière, c'est d'amener la lumière dans l'ombre. Eh bien, quand les émotions surgissent, c'est un peu ce qui se passe. On a cette opportunité, tout d'un coup, de mettre quelque chose en lumière qui, en général, reste, demeure assez confus. On peut toujours utiliser dans certains cas le calme et la tranquillité pour apaiser des émotions. De revenir à la respiration, revenir à une technique précise, qui est une manière judicieuse dans certains cas. On apaise, en revenant à la respiration, on apaise certaines difficultés, de l'irritation, de la colère ou autre. Mais ça permet d'apaiser l'émotion, mais pas de la comprendre. On ne va pas s'en libérer, on va juste la gérer dans l'instant. Et quelquefois, on a besoin de gérer dans l'instant. Donc, ces approches stratégiques de revenir à la respiration et à autre chose sont judicieuses dans certains contextes, permettent la tranquillité ou la paix de l'âme, pour employer un terme très vague, mais ne permettent pas de mettre en lumière profondément ce qui, dans l'émotion, me trouble, me conditionne, et à ce moment-là, de pouvoir s'en libérer. Donc il s'agit toujours de faire un peu de clarté dans le vocabulaire qu'on utilise. Je voudrais faire une distinction entre émotion et état mentaux. Donc comme je l'ai déjà mentionné, si on regarde dans les différents philosophes ou différents manuels, on verra qu'on met dans la catégorie émotion des choses assez différentes. Et quelquefois des choses, j'ai dit, assez étonnantes, quand Descartes cite certains types d'émotions. Donc ici, cette distinction qu'on veut faire entre émotion et état mentaux, c'est que l'émotion est une certaine qualité de la conscience qui transforme la vision du monde, qui affecte notre manière de voir la réalité du monde. On pourrait dire qu'il perd une qualité objective dans le sens où notre entourage ne sera pas d'accord avec nous. Alors qu'un état mental, comme la fatigue, la somnolence, le calme, la tranquillité, la joie, n'affecte pas notre vision du monde. Il est vrai que si on est somnolent ou fatigué, on ne voit pas avec la même clarté, mais on ne se dit pas, tiens, vous voyez, l'émotion, si on la traduisait dans la somnolence, ça voudrait dire qu'on croirait que le monde est devenu un peu flou comme ça, comme on le voit dans la somnolence. On croirait que ça, c'est objectif. Alors on sait très bien quand il y a de la somnolence, c'est pas objectif, c'est dû à la fatigue. Mais quand on est dans l'émotion, on croit que le monde est vraiment comme l'émotion nous le fait percevoir. Donc il y a cette distinction, à nouveau, je ne sais pas si elle est juste dans le vocabulaire, mais on la pose nous pour savoir de quoi on parle et l'aborder, et aborder ces choses-là de manière spécifique à ces caractéristiques. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on pourrait nommer émotion? Donc, tout dépendra aussi du degré d'intensité, mais on pourrait parler de tristesse, d'inquiétude, de colère, de haine, de désir, de jalousie. Désir ici insatiable, si vous voulez. Jalousie, orgueil. L'orgueil nous fait nous accorder en général plus de valeur qu'on a. On ne parle pas d'estime de soi, c'est différent. L'orgueil, c'est déjà une exagération. D'ailleurs, des fois, on ne comprend pas que tout le monde n'a pas le même point de vue sur nous-mêmes. C'est tellement évident. Donc, il y a cette vision du monde qui est altérée. Alors là, je vous propose des pistes de réflexion. Ça ne veut pas dire que, voilà, et c'est juste, ou c'est la seule manière de voir, mais cette altération du monde que suppose l'émotion, elle est le sens de l'émotion. L'émotion est là pour altérer le monde. C'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est ce qu'elle veut. L'émotion est une manière de faire face à une situation dans le monde en se transformer, en transformant le monde. C'est sa manière de gérer cette situation-là. Je vais vous donner un exemple parlant, je ne sais pas s'il est juste, mais en tout cas il est parlant. Si on imagine un caméléon, le caméléon prend les couleurs de son environnement. Il est dans un environnement jaune, sur le sable, il apparaît jaune, dans les feuilles vertes, il apparaît vert. L'émotion, c'est l'inverse. L'émotion, c'est l'inverse. Elle fait changer la couleur à l'environnement. Donc quand il y a la tristesse, l'environnement devient triste. Quand il y a de l'inquiétude, l'environnement devient inquiétant. L'irritation, l'environnement devient, dans le fond, c'est plein de choses qui ne sont pas à leur place, quoi, l'irritation. Rien n'est à sa place, rien ne joue. Donc si on prend sous cet angle-là, donc l'émotion agit sur le monde, c'est une manière de transformer la conscience qui transforme cette vision du monde comme manière de gérer une situation. Alors, c'est une manière de gérer une situation, on pourrait aborder ceci, qui, dans certaines circonstances, peut être judicieuse, mais évidemment, elle devient aussi encombrante. Et on ne décide pas, on ne dit pas, voilà, je vais transformer le monde par la tristesse, parce que dans le fond, dans cette situation, ça m'arrange bien d'être triste, ou je vais transformer le monde par l'inquiétude, parce que ça m'arrange, je ne sais pas du tout. Ce dont il s'agit, c'est fait évidemment inconsciemment, mais c'est une manière d'être dans le monde particulière qui transforme le monde. Et cette transformation du monde, évidemment, transforme aussi la conscience, c'est-à-dire l'émotion, et il y a une sorte de boucle. La vision du monde changée va nourrir l'émotion qui va nourrir cette vision du monde. Et il est intéressant, lorsqu'on aborde les émotions, d'essayer de se rendre compte de quelle vision du monde est spécifique à cette émotion. Parce qu'on verra que dans la mesure où on peut se libérer de l'emprise de l'émotion, un des aspects, ça sera de se rendre compte que cette vision qu'elle fait passer pour objective n'est pas objective. Et tant qu'on croit qu'elle est objective, alors c'est normal. Si le monde était tel qu'une personne triste ou déprimée le perçoit, eh bien on serait tous déprimés. Heureusement, il n'est pas comme une personne triste ou déprimée le perçoit, donc il n'y a pas d'autre raison de se déprimer ou d'être triste. Donc dans la mesure où la croyance est préservée, alors l'état d'esprit, l'émotion va aussi être préservée, elle va être nourrie par cette vision. Donc, il s'agit de faire une distinction entre l'inscription corporelle, la dimension corporelle, physique, et puis la dimension de l'esprit, qui est l'émotion. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose, il y a une inscription corporelle propre à chaque émotion, manière d'être dans l'impatience, manière d'être dans la tristesse, qui sont assez opposées du point de vue de l'énergie, ou même une manière d'être dans l'inquiétude, qui est différente aussi corporellement, l'apathie que pourrait avoir la tristesse ou la dépression. Donc il y a des inscriptions corporelles différentes, le poids sur la poitrine qui pourrait accompagner une certaine tristesse ou une certaine angoisse. Mais l'inscription corporelle n'est pas l'émotion, elle est quelque chose qui est jointe, mais elle n'est pas l'émotion, puisqu'on sait très bien qu'il y a des inscriptions corporelles dues à d'autres raisons, un rhume, je ne sais pas, avec cette lourdeur sur la poitrine, qui paraîtront de la même manière dans l'inscription corporelle, mais on ne va pas confondre. On ne devient pas triste quand on a un rhume parce qu'on sent un certain poids sur la poitrine. On ne confond pas. Des chercheurs ont fait une expérience assez simple. On fait boire beaucoup de café à des personnes qui avaient une tendance à l'angoisse, et les personnes devenaient angoissées quand elles avaient bu beaucoup de café. Elles interprétaient cette agitation et peut-être les palpitations du cœur augmentant un petit peu comme un signe qu'il y a quelque chose de dangereux. Donc, tout d'un coup, elles étaient angoissées. Comment l'organisme lit l'inscription corporelle et tout d'un coup, dans ce cas-là, va générer une angoisse qui est due à l'inscription corporelle. On voit bien la boucle, à tel point que certains psychologues pensaient que l'émotion n'était qu'une manière de lire l'inscription corporelle. William James, il disait, pourquoi est-ce qu'on est triste? Parce qu'on pleure. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce qu'on court. Donc, complètement inversé cette lecture. Donc, on ne va pas l'inverser, mais se rendre compte que certaines inscriptions corporelles, dans certains cas, vont nourrir l'émotion ici, même dans le fond, la suggérer dans le cas de cette angoisse. Donc l'inscription corporelle n'est pas l'émotion, même si elles sont étroitement liées. Je dis ceci parce que quelquefois, quand dans la méditation, on essaie d'être en contact avec une émotion, on sent qu'il y a quelque chose là qui nous trouble. Il n'est pas rare qu'on essaie d'être plus précis avec la sensation corporelle, de la ressentir encore plus précisément. Et alors, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais si l'intérêt pour la sensation corporelle est trop grande, il ne va pas y avoir cette ouverture pour se rendre compte de la qualité de la conscience, de la qualité émotive de la conscience, tristesse et autres. Il faut bien s'imaginer que parfois, dans la méditation, dans la vie, ce qui surgit d'abord, c'est une sensation corporelle qu'on ne comprend pas. Et lentement, quand on la touche, on va se rendre compte qu'elle est la manifestation d'une émotion. Je pourrais, dans la méditation, tout va bien, c'est tranquille, et puis au bout d'un moment, mais tiens, il y a quand même quelque chose un peu qui me gêne dans la poitrine, sentir une lourdeur. Et puis j'essaie de me rendre plus disponible à ceci, et que tout d'un coup, je me rends compte que ce qui accompagne cette lourdeur, c'est un certain état d'esprit, et je découvre la tristesse. Ça arrive très bien que c'est l'inscription corporelle qui, lentement, va révéler pour nous une émotion. Donc ce n'est pas toujours évident qu'elle surgisse au même instant, et parfois, lorsqu'il y a une émotion qu'on ressent, voilà, je suis triste ou inquiet. Il est aussi judicieux, dans ce cas-là, de prendre conscience de l'inscription corporelle, pas seulement de rester avec cette qualité émotionnelle, mais quelle est l'inscription corporelle, parce que ceci nous permet de les distinguer légèrement afin que l'une n'alimente pas l'autre. Voilà, il y a de l'inquiétude ou de l'impatience. Qu'est-ce que l'inscription corporelle de cette impatience? On sent bien une sorte d'énergie, de vibration dans le corps. Voilà, ça c'est de la vibration. Et puis, c'est pas que ça, je pourrais boire beaucoup de café et avoir cette énergie sans être impatient. L'impatience, elle signifie quelque chose. L'impatience, elle signifie, il faut que ça bouge, il faut que quelque chose se passe. Voilà, et quelque chose doit se passer. On est dans une sorte d'attente de quelque chose. toujours dans l'anticipation de quelque chose. Ce n'est pas juste l'énergie. Puisque je parle d'impatience. Il me semble un des aspects intéressants, parler peut-être trop en détail dans ceci, mais c'est que il se peut que certaines personnes, ou soit même par moment, en aient de la peine à rester tranquille. Je parle en termes très vagues, mais ce qui veut dire que à certains moments, on a l'impression que on fait tout pour pas être tranquille. On fait tout pour pas être tranquille. Il y a une sorte, l'esprit s'agite, le corps légèrement est agité, et alors on pourrait essayer de faire encore plus d'efforts pour se calmer, pour se tranquilliser, ou peut-être revenir à la respiration. Mais en fait, si on s'agite, et on comprend bien, on s'agite sur place. Si on s'agite, c'est pas sans raison. Pourquoi est-ce qu'on va s'agiter comme ça? Si on s'agite, c'est peut-être parce que justement on ne veut pas être immobile. Et pourquoi on ne veut pas être immobile? Parce que peut-être que l'immobilité, elle est ressentie comme quelque chose d'inquiétant. Vous voyez, si l'immobilité est inquiétante pour moi et que j'essaie de me calmer, de m'immobiliser, je vais être dans un conflit. Je ne vais pas aller tendre vers cette immobilité qui pour moi est inquiétante. Donc constamment, je vais essayer de me calmer, de me tranquilliser, et puis je vais sentir ce besoin de bouger, de cette impatience. Alors, il y a différentes raisons pourquoi l'immobilité pourrait être vécue comme inquiétante. Des raisons psychologiques et autres, on ne va pas s'engager là-dedans. Mais si on ne tient pas compte de ceci, alors on est dans un combat pour vouloir calmer, apaiser une inquiétude qui est une réponse à quelque chose, qui est une vision ici, vision de l'immobilité comme étant inquiétante. Il arrive quelquefois dans des entretiens qu'une personne parle, voilà, j'ai besoin de bouger, etc. Et puis au bout d'un moment dans l'entretien, on se rend compte que cette personne a tout sauf envie d'être tranquille. Même si elle vient pour méditer, pour être tranquille, elle a tout sauf envie d'être tranquille. Mais elle aimerait bien être tranquille, parce qu'on sait très bien qu'être tranquille, c'est quand même tranquille, et c'est quand même apaisant. Mais que dans le fond, elle a peur d'être tranquille. Et quand ça m'arrive de poser la question, mais dans le fond, ça voudrait dire quoi pour vous d'être tranquille, d'être immobile? Quelquefois, la personne dit, mais c'est la mort. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de toucher, c'est surtout ce que je ne veux pas. Donc si cette personne essaye de se tranquilliser alors qu'elle a peur de la tranquillité, ça va être difficile. Elle va s'engager dans une méditation avec... Et comme tout le monde est sincère et bien brave, ça va quand même être un processus difficile en visant une sorte de tranquillité, d'immobilité, tout en étant la chose qu'on craint, qu'on veut éviter. Donc là, il s'agira simplement, tranquillement, de voir ce que symbolise, ce qui signifie l'immobilité et autres, et de pouvoir approcher lentement ceci, pour peut-être toucher un tout petit peu l'inquiétude que pourrait provoquer ou signifier l'immobilité et pouvoir apprivoiser ceci et finalement peut-être calmer cette inquiétude en se rendant compte, en approchant tranquillement l'immobilité, que dans le fond il n'y a rien d'inquiétant. C'est une croyance qui est rajoutée que l'inquiétude, que l'immobilité est une sorte de, je ne sais pas, vulnérabilité ou... Sans parler, évidemment, il se peut très bien que des images du passé surgissent. On ne peut pas dire à la personne, restez dans le présent, la personne tout d'un coup découvre les images du passé qui sont inquiétantes. Si elles surgissent, il faudra bien les intégrer dans la méditation. Voilà, je donne un exemple pour montrer que ce qu'on touche, c'est tout de suite la vie. C'est pas une technique pour se tranquilliser. On s'assied, on ferme les yeux, et ben c'est la vie qu'on rencontre dans tous ses aspects. Et on peut pas lui donner des catégories spirituelles, psychologiques, philosophiques. Voilà, on rencontre ce qui surgit, et c'est ça la richesse. Et on va faire avec ceci. Donc on peut se demander pour chaque émotion quelle est la vision du monde spécifique? Donc la tristesse ou la dépression, restons dans quelque chose de peut-être un peu plus léger, enfin, je ne sais pas, peut-être, un peu moins chronique, enfin, j'espère. Donc la tristesse, c'est cette vision du monde comme quelque chose qui ne promet rien. La tristesse, rien ne semble, ou la dépression, rien ne semble vraiment souhaitable. J'ai mentionné, si on veut, bravement, on essaye de sortir une personne de cet état-là, et on lui fait des propositions, en général, rien n'est intéressant. L'emmener dans un restaurant, non, c'est pas bon. Voir un film, non, j'ai lu la critique, c'est pas super. Non, ce réalisateur, j'ai déjà vu ses films, c'est vraiment nul. Ça sert à rien, on essaye. La vision de cette personne, elle est une vision attristée, j'allais dire, un monde terne, puisque c'est ce que fait l'émotion. Donc essayer de la convaincre, je ne dis pas que c'est toujours inutile, parce que le simple fait de s'en occuper entre déjà une autre dynamique dans l'histoire. Mais ce que je veux dire, on se rend bien compte de la vision du monde de la personne. Comme elle répond, on peut presque voir l'éclairage qu'elle donne sur ce monde. Comme ces nouvelles ampoules là, de basse consommation, où on voit presque rien du tout. Voilà, ça, c'est l'éclairage des déprimés, quoi. Il faut attendre un moment, on espère que ça augmente, mais c'est un peu ce genre d'éclairage, quoi. Et si on est dans une période de tristesse et autres, se rendre compte que cette vision n'est pas une vision objective. Pas besoin de convaincre tous ses amis que le monde est tellement triste, mais si on commence à se rendre compte que c'est vrai, je le vois comme ça, et c'est pas comme ça que je le voyais avant, je le vois comme ça maintenant, et que c'est ce que je crois qu'il est en ce moment. Mais ce n'est pas nécessairement la vérité, ce n'est pas nécessairement une vision objective. Déjà, on est en train de briser un peu cette boucle qui fait que si le monde est comme je le vois, vraiment, il y a de quoi être triste. Donc ici, prendre conscience de la croyance. Alors ici, j'ai parlé du monde, mais évidemment, la croyance peut aussi porter sur soi-même. Quand une personne est triste ou déprimée, les jugements qu'elle peut avoir sur elle-même, extrêmement négatifs, même si on s'évertue à convaincre l'autre personne que elle vaut bien mieux que ce qu'elle veut bien en dire, combien il est difficile de la convaincre, même si nous, on a des arguments qui sont flagrants. Personne n'a fait mille choses extraordinaires, mais n'empêche que dans cet état-là, elle peut très bien se voir de manière négative, donc se dépréciant complètement. Et à ce moment-là, il s'agit, pour soi-même ou pour l'autre personne, de prendre conscience que ceci fait partie évidemment de la tristesse ou de la dépression, que cette manière, c'est la dépression qui fait qu'on voit ceci, c'est une boucle évidemment. Et que le fait de croire que c'est une vision objective nous enferme dans cette boucle-là. Maintenant, évidemment, il ne suffit pas de dire à la personne ou se dire à soi-même, bon, c'est pas une vision objective. Ouais, mais c'est quand même vrai. Si c'était aussi léger que ça, évidemment, ces émotions ne dureraient pas. Ou l'inquiétude, comme je l'ai dit, l'inquiétude, c'est intéressant, c'est un peu l'opposé dans l'énergie de la tristesse. La personne inquiète est sur le qui-vive, constamment à observer toute chose, parce que tout pourrait être un danger. Donc le monde est un monde qui ne présente aucune sécurité. Donc il y a là aussi une croyance dans ce fait que le monde est plein de dangers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun danger, mais certainement pas autant qu'une personne inquiète peut en imaginer. Et à nouveau, quand je dis qu'il s'agit de voir que c'est une croyance, il ne s'agit pas juste de dire c'est une croyance. Ça ne change rien du tout. Mais vraiment réaliser que c'est une croyance, une projection qu'on met sur le monde. J'ai parlé ce matin des projections qu'on peut avoir, par exemple, sur les autres personnes dans la salle à manger. Et c'est intéressant de se rendre compte de ces projections-là, parce qu'elles sont beaucoup moins fortes, elles ont moins grande habitude, donc on peut les reconnaître plus facilement, tout donc en reconnaissant que cette vision, elle est là, elle est où je suis, elle est dans mes yeux, si vous voulez, ou dans mon esprit, qui projette cette personne comme étant positive ou comme étant négative. Et quand tout d'un coup, je me rends compte que c'est juste dans mes yeux, dans mes lunettes, que je vois comme ceci, et que la personne est libre de cette vision. Donc ici, ce sont des choses simples, parce qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. Souvent, on peut avoir des jugements, mais basés sur rien du tout. On n'a pas besoin de raison profonde pour qu'il y ait immédiatement un jugement qui soit porté sur une autre personne. Quelquefois, c'est d'une absurdité. Moi, je me souviens dans la dernière retraite en groupe que j'ai fait aux États-Unis, de surprendre des jugements, mais vraiment infondés. Je ne sais pas pourquoi ils surgissaient comme ceci. Et c'était presque amusant de se rendre compte que comment l'esprit, tout d'un coup, avait besoin sur les t-shirts des personnes, de mettre d'écrire des choses, quoi. Et de croire que ça venait de là. Et de se rendre compte, dans ce cas-là, que c'est juste mon esprit qui voit comme ceci. Donc c'est qu'une croyance dans l'instant. Reconnaître ceci, c'est juste une croyance qui se trouve dans ma vision. Ça permet de comprendre, dans le cas des émotions aussi. C'est le même processus, même s'il est beaucoup plus ancré, il a une plus grande habitude. Donc, il s'agit de vraiment le reconnaître, pas juste de le penser. De le penser, ce n'est pas convaincant. Oui, c'est comme ça, mais quand même. Le monde n'est pas aussi triste, mais quand même, ce n'est pas drôle. Il y a cette qualité de l'émotion. On peut dire que la croyance n'est pas encore l'émotion. La croyance, c'est dans le fond ce qui soutient cette émotion, cette qualité de l'esprit qu'on appelle tristesse. Vous voyez, c'est difficile à définir. On a mis tout le contexte, l'inscription corporelle, la croyance, et puis il y a cette qualité, l'esprit qui semble être moins brillante, moins lumineuse, qui voit de manière terne, qui n'arrive pas à se mobiliser. À l'inverse, dans l'inquiétude, au contraire, cette sorte d'hyperluminosité qui doit tout percevoir parce que tout pourrait être un danger. Donc cette croyance que tout pourrait être un danger, et puis cette qualité de l'émotion elle-même. Donc de se rendre compte de ce qui accompagne, ou les différentes facettes de l'émotion. On pourrait dire que ce sont des facettes de l'émotion, pour pas trop scinder tout ceci. Maintenant, dans la méditation, quand on a reconnu ces éléments qui fait qu'on va peut-être pas tourner en boucle, néanmoins, on fait l'expérience de la tristesse. Je ne suis pas en train de me convaincre que le monde est pas drôle, ni simplement dans cette lourdeur sur la poitrine. Mais je suis dans cette qualité de conscience qui est la tristesse. La conscience a cette capacité extraordinaire de s'affecter en apparence. En apparence. Elle s'affecte de tristesse, elle apparaît sous l'aspect de la tristesse, sous l'aspect de l'inquiétude, sous l'aspect de la somnolence. C'est extraordinaire, cette capacité qu'a la conscience de se mobiliser de manière différente. Sans qu'évidemment sa nature change. C'est pas quand on devient triste, la nature de la conscience aurait changé, et puis maintenant il faut un nouveau processus alchimique pour la transformer en autre chose. Non, c'est juste. Elle apparaît sous cet aspect-là. J'ai donné l'image du miroir, comme si le miroir tout d'un coup avait ce reflet particulier. Reflet de tristesse, reflet d'inquiétude. Mais si le miroir se prend pour le reflet, alors à ce moment-là, je suis triste. À ce moment-là, ce que je deviens, ce que je suis réellement, c'est triste. Ce que je suis réellement, c'est inquiet. Ce que je suis réellement, c'est anxieux. Vous voyez, j'en fais une manière d'être plutôt qu'un certain état d'âme. Ça ne veut pas dire se mettre à distance, comme si. Parce qu'on ne peut pas mettre les qualités de la conscience à distance comme si c'était des objets. Donc là, en me disposant à éprouver cette qualité particulière de conscience qu'est la tristesse ou l'inquiétude, sans m'identifier, sans penser que ceci me définit, je me définis, voilà, moi je suis une personne triste, comme si quand je suis né à ma naissance, on a dit, oh mince, voilà, moi je donnais naissance à un bébé triste, ah, un bébé inquiet, un bébé agité, un bébé, voilà, impatient. Même si peut-être qu'il y a des caractéristiques qui peuvent surgir, je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais assez tôt, mais disons que ce n'est pas une caractéristique d'une conscience et d'une autre, une conscience qui a les caractéristiques tristes et une autre inquiète et une autre tranquille. Donc c'est cette manière dont la conscience, elle apparaît, elle se manifeste sur la tristesse, et si je peux me rendre disponible à faire l'expérience de la tristesse, à nouveau sans croire qu'elle me définit, sans me réduire à ceci, à ce moment-là, dans cette qualité de présence, sans que je m'accroche au concept tristesse, dans cette qualité de présence, comme on l'a décrite dans l'audition, alors il y a juste la tristesse, et c'est juste une qualité de conscience qui, à ce moment-là, n'est pas du tout contraignante. À ce moment-là, elle n'est même pas triste. Ce qui sera frappant dans cette expérience-là, c'est la plénitude et non pas la tristesse. Même si cette plénitude, elle est dans un contexte de tristesse. À ce moment-là, la tristesse, c'est juste ça. C'est juste cette qualité de conscience. Et on connaît, quand on connaît la tristesse à ce niveau-là, chaque émotion est comme ceci. C'est une découverte, c'est une sagesse, c'est une liberté qui nous éclaire sur toutes les émotions. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on sera énervé, inquiet et autre, tout sera joué. Il va falloir aussi aborder ceci dans la méditation avec le même doigté, la même sensibilité. Mais néanmoins, on aura compris, je crois qu'on aura confiance que dans toute émotion, il est possible, lorsqu'on l'éprouve à ce degré d'intimité, de ne plus être agi par, de ne plus être contraint par. C'est juste cette qualité-là qui n'a pas de pouvoir de contrainte. Parce qu'il n'y a personne qui est contraint. C'est une expérience de plénitude, même si elle apparaît sous l'aspect de la tristesse. Donc une grande liberté, une grande plénitude et de la tristesse. Et si à ce moment-là, hein, poser la question, est-ce que tu préférerais une expérience de tranquillité, de calme, avec identification, ou bien cette expérience de tristesse, sans identification, avec cette qualité de présence, à tous les coups, on dirait, je préfère la tristesse. Parce qu'il y a une liberté dedans, il y a une plénitude qui n'est pas affectée par la tristesse, alors qu'on se rend bien compte que si on s'attache à une expérience plaisante, de calme, de tranquillité, il y a une limite qui est là. Il y a quelque chose de contraignant, c'est agréable, mais on est quand même délimité par cette expérience-là à laquelle on s'attache. Donc c'est fascinant d'explorer les émotions. Maintenant, quand on décrit ceci comme ça, on se dit, ben, il n'y a qu'à, voilà, c'est très simple. Voilà. Il y a une personne, ça fait 10 ans qu'elle est en dépression, eh ben, elle va venir, et puis en quelques séances, voilà, ça va être. Non, c'est vrai que ça demande de la tranquillité, de la sensibilité, mais ça demande aussi, en tout cas à titre d'hypothèse, de se dire qu'il est possible d'être libre dans l'émotion. Parce que si on croit qu'il faut lui tordre le cou, alors on s'engage dans un combat, et là, c'est difficile. Au moins prendre cette hypothèse pour essayer de l'explorer dans la méditation. Et il est évident qu'une des choses qu'on va rencontrer par rapport à ces émotions qui sont lourdes, qui sont pesantes, qui sont désagréables, autant l'angoisse, l'inquiétude, la tristesse, le désir et autres, ce qu'on va rencontrer quand ces émotions vont surgir, c'est certainement une sorte d'aversion. Pas encore la tristesse, oh mince, j'ai pas envie, ou cette inquiétude, ou cette angoisse. C'est lourd à porter. Donc il y a une réticence, hein, à éprouver ceci. Et il faut prendre conscience de cette réticence. Autrement, on va forcer, on va vouloir prétendre qu'on s'intéresse, mais on garde cette réticence. C'est-à-dire qu'on veut et on ne veut pas être en contact avec ceci. Ça me permet de décrire ici une expérience que Joseph Goldstein décrivait et qui me semble tellement illustrer ceci. Il disait qu'à une période dans sa pratique, Joseph Goldstein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un des grands enseignants de Vipassana, notamment un des maîtres principaux de Jon Kabat-Zinn, donc à AMS aux États-Unis, vraiment un des plus grands, à mon avis, enseignants de méditation, les plus clairs. Et il a dit que dans une période de méditation, il était complètement angoissé, que le fait de passer de la position assise à la position debout l'angoissait. Donc imaginez, tout était angoissant pour lui, et ça a duré pendant plusieurs mois. C'est pas juste tout d'un coup une journée où je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait bu ou mangé qui aurait suggéré ça, mais vraiment quelque chose qui était difficile à gérer. Et il connaissait tous les manuels par cœur de méditation, il en a même écrit, il en a même enseigné pendant des années, donc... Et quand même, il était là avec cette angoisse qui semblait quand même l'accabler. Et à un moment donné, alors qu'il était en train de faire la méditation en marchant, il s'est dit, bah, tant pis, même si jusqu'à la fin de mes jours, je dois vivre avec cette angoisse, eh ben, je vivrai avec cette angoisse. Et à ce moment-là, elle a disparu. Ça veut dire qu'au moment où il s'est disposé, il a dit, bah, d'accord. De toute façon, cette manière de vouloir... en faire l'épreuve, l'éprouver, ici ouvrir, mais en même temps vouloir lui régler son compte, ça ne jouait pas. Au moment où il a dit, eh bien voilà, même si c'est jusqu'à la fin de mes jours, je reste avec ceci, il était dans une disposition différente, et à cet instant-là, ça a disparu. La différence entre une attitude juste et une attitude fausse, elle est quelquefois le millionième de millimètre. C'est pas vraiment quelque chose qui demande un chemin immense, c'est d'une telle sensibilité... Cette attitude légèrement fausse qui fait que la chose reste, ici l'émotion reste figée, solide, et une légère différence dans l'attitude, et tout d'un coup, les choses changent complètement. Donc là, on a un exemple quand même assez parlant d'une angoisse qui n'était pas juste une petite inquiétude, mais vraiment quelque chose de très intense. Des domaines d'exploration fascinants. Ça ne sert à rien de commencer à s'imaginer des émotions ou de se rappeler tous les problèmes du passé, les gens qui ont mal agi pour tout d'un coup partir dans la colère, etc. Ça ne sert à rien. Parce que voilà, on peut explorer des choses similaires avec les états mentaux. Les états mentaux, c'est moins dramatique, c'est pour ceci que je pense que c'est des très bonnes zones d'exploration. J'ai déjà parlé de la somnolence et je pense que la somnolence est très intéressante. Parce que la manière dont la somnolence affecte la conscience est similaire à la manière dont la tristesse affecte la conscience. C'est aussi un voile qui vient, une manière d'apparaître de la conscience. Elle apparaît somnolente, mais la conscience, elle n'est pas transformée comme une transformation chimique, c'est simplement sa manière d'apparaître. Donc si on se dispose à l'expérience de la somnolence sans penser que c'est un obstacle à la présence, à ce moment-là, on peut très bien rester complètement clair et présent, totalement présent dans la somnolence, sans que la somnolence affecte cette qualité de présence. Pour reprendre l'exemple du miroir, c'est comme si, évidemment, le miroir, lui, il ne change pas, il est pareil à lui-même. Et s'il reflète quelque chose de trouble qui serait la somnolence ici, et s'il se prend pour cette somnolence, alors il est trouble. Donc quand on se prend pour la somnolence, je suis tellement somnolent, je suis fatigué, etc., à ce moment-là, eh bien, c'est ce qu'on est, la conscience est là, elle a cette... on lui... attribue comme qualité essentielle ce trouble qu'est la somnolence. Mais si on ne considère pas la somnolence comme un obstacle, comme un empêchement, mais on essaie de rester, la somnolence révèle une conscience comme toute autre expérience. Quand on a fait la méditation en marchant, hier dans la salle ici, on a exploré la vision, je vous dis qu'elle révèle une conscience plus que ce qui est vu. Eh bien, la somnolence, de la même manière, elle révèle une présence. Les poutres, là, elles ne somnolent pas. Pour avoir une statue de n'importe qui, elles ne somnolent jamais. Donc, pour qu'il y ait somnolence, il faut qu'il y ait conscience. Donc, la conscience, elle est révélée aussi à travers la somnolence. Mais si on s'attache à l'aspect somnolence, alors évidemment, c'est peu clair. De la même manière avec la fatigue. Oh, je suis fatigué, on adhère à la fatigue, on s'y identifie, alors il n'y a plus d'énergie, on ne peut plus méditer, voilà, à ce niveau-là. Mais si on ne s'identifie pas, voilà la qualité de l'expérience, c'est pas dire, c'est pas ma fatigue, elle se situe là-bas, non, c'est être dans l'expérience sans me réduire à ceci, à ce moment-là, la fatigue n'affecte pas la qualité de la conscience. Elle affecte l'apparence de l'expérience. Donc ceci peut-être permet de comprendre que la liberté qui est explorée dans la méditation, puisque c'est quand même le but, elle ne nécessite pas, elle ne demande pas la destruction de toute émotion, elle ne requiert pas une sorte d'état d'esprit où il ne se passerait rien du tout. Elle est une exploration d'une qualité de liberté dans toutes circonstances, dans les émotions. Liberté dans la tristesse, liberté dans la somnolence. Si elle requérait la liberté, le fait d'éliminer, éliminer tout finalement, la somnolence, l'agitation, le désir, la haine, la colère, la tristesse, etc., on ne sait plus bien ce qui va rester pour la liberté. Ça serait une liberté dans un petit carré vert comme ça, où il n'y aurait que le calme, pas de pensée, la tranquillité. Qui voudrait d'une telle liberté? Vous imaginez, ça serait complètement ennuyeux. Donc la liberté, elle est bien. Si elle a une possibilité, c'est qu'elle ne dépend pas de l'élimination de rien du tout. Si ce n'est de la confusion qui fait qu'à ce moment-là, on s'enchaîne. La contrainte n'est pas la réalité. Ce qui nous contraint, c'est la croyance par rapport à la réalité, pas la réalité. Si c'était la réalité, alors il n'y a pas de liberté possible. Et si c'est la réalité, alors la liberté est simplement une illusion. Donc en explorant ceci, on peut découvrir un peu certaines fois certains espaces de liberté qui nous font prendre confiance dans la possibilité. À nouveau, pour revenir à quelque chose de simple, quand on peut découvrir qu'on peut être parfaitement présent dans la somnolence, c'est une découverte immense. Parce qu'on se rend compte que l'apparence de la conscience ne me détermine pas. Donc quand je comprends ceci, je sais que ça peut être la même chose avec une émotion, avec toute autre expérience. Même si elles représenteront des défis légèrement différents, parce que si j'ai des raisons d'être profondément triste, il va y avoir une autre intensité dans l'expérience, mais je sais que cette possibilité est là. Donc les émotions sont une richesse de notre existence humaine et pas un problème. J'ai vu un programme d'études sur le cerveau montrer une personne qui avait une lésion et qui fait que ça avait fait disparaître sa capacité à ressentir des émotions. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que sa femme l'envoie au supermarché du coin pour acheter quelque chose de, disons, pour prendre un exemple simple, de la confiture. Il est incapable de décider parce qu'il n'a aucun critère qui lui permet de choisir. Il n'y a rien. Il est là, il est devant, il ne sait pas. Il ne sait pas comment faire parce qu'il n'y a plus de qualité émotionnelle qui permet de choisir, qui donne des indications. Donc les émotions sont une richesse. Pas des choses dont on devrait se débarrasser. Il s'agit juste d'apprendre à danser avec elle plutôt que de se faire piétiner par elle, quoi. Voilà, donc à nouveau, quelques remarques simplement. Les émotions sont certainement un sujet extrêmement vaste, mais juste pour montrer un petit peu comment on peut les explorer dans la méditation et aussi comment c'est intéressant et enrichissant de le faire.